Donc les mots sont différents, dit-il, mais seul nous sapiens, dans l'âme, ça semble identique. Bon. Mais comme il y a des gens comme Gorgias, Gorgias dit le mot ne désigne ni ce qui est, ni ce qui n'est pas. Donc Gorgias dit, avec le mot, on prend rien avec le mot. Le mot, c'est une convention seulement. On appelle ça verre, et on dira tasse, c'est un truc différent avec une anse, on appelle ça... Bon. Il dit, mais les mots ne signifient rien, et ça ne désigne ni ce qui est, ni ce qui n'est pas. Gorgias dira ça. Donc Aristote n'est pas d'accord en disant, il lui dit, moi je suis pas d'accord, si les noms ne signifient rien, en même temps serait ruiné tout échange de pensée entre les hommes, et même en vérité aussi avec soi-même. Donc il dit, si les mots ne signifient rien, il n'y a plus d'échange de pensée entre les êtres. Or, il n'y en a pas, c'est clair, bien sûr, mais Aristote ne le voit pas. Et il dit aussi bien avec soi-même, ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Vous marchez dans la rue, hop, qu'est-ce que vous pensez tout le temps? Il n'y a pas le choix, hein, il y a des images qui viennent. Et puis vous parlez à vous-même, c'est toujours un échange avec soi-même le langage, hein. On pense à un truc, on pense à un autre machin, mais du bon. Mais même là, en fait, c'est impossible parce que on donne de l'importance au sens seulement des mots. Or, les mots ont plusieurs sens. Du moins, le sens qu'un tel va mettre derrière un mot, un autre pourra mettre un autre sens. Par exemple, banane désigne toutes les bananes du passé infini, maintenant et futur infini. Mais banane, ça peut être petite, grosse, verte, jaune, marron, pourrie, n'importe quoi. Donc le mot banane va signifier un grand nombre de choses. Donc tous les mots désignent toujours une infinité de choses, et le sens pourra se mettre où on veut. Chacun mettra le sens qu'il veut au mot. Par exemple, vous avez une copine qui flippe et elle parle avec vous une heure au téléphone, eh bien, le sens qu'elle donne au mot pour que vous puissiez comprendre ce qu'elle a, ne vous donne aucun cas la possibilité de vivre son état à elle. Vous pouvez vous faire une idée, vous dire, oh bah tiens, est-ce que c'était la flippée hier? Bon, mais c'est tout. Vous ne partagez pas l'état. Parce que les mots désignent des choses multiples. Donc les mots, on utilise parce qu'on est entre humains. Vous essayez de comprendre ce que je dis. Mais de fait, l'objet désigné ou l'état désigné par l'objet, par le nom, n'est pas transmissible. On ne peut pas le donner. C'est la raison pour laquelle, donc Aristote dit si les mots c'est important, ça existe, machin bidule, mais en fait, bien sûr, il se trompe encore une fois. C'est la raison pour laquelle, j'arrête mon top, l'enseignement du Bouddha, il dit les choses suivantes. Les cinq caractères de Myoho-Renge-Kyo ne sont pas les phrases du sutra. Ils n'en sont pas le sens, ils en sont uniquement le cœur. Donc Myoho-Renge-Kyo, c'est pas les mots, c'est pas le sens, alors que le sens, l'humain travaille avec le sens des mots, hein, pour comprendre ce que l'autre dit. Mais Myoho-Renge-Kyo, c'est ni les mots, ni le sens, c'est l'état du Bouddha. Autrement dit, alors que nous, humains, on est infoutu avec des mots de traduire à l'autre ce que l'on est, ce que l'on vit, même si on aime en aimant l'autre, le Bouddha, de par sa bienveillance profonde, a pu exprimer sous une forme physique, vocale, son propre état. Par exemple, vous avez entendu votre mère dire parfois, en parlant de vous, ah, je comprends pas ma fille, je sais pas ce qu'elle veut, je la comprends pas, je suis pas d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que même si on parle, l'un n'est pas l'autre. Donc il y a une impossibilité de fait de communiquer de l'un à l'autre. Ça c'est vraiment... Alors il y a et incommunicabilité de l'un à l'autre, et il n'y a pas non plus de passation de culture à travers le temps. Ça peut être abruti comme Hegel pour dire que à travers l'histoire, la raison devient de plus en plus opérante, riche, parce qu'on bénéficie de toute l'histoire avant nous, de la culture, et qu'au moment où il est là, Hegel, lui, c'est la sommité, c'est, il n'y a jamais eu mieux avant Hegel qu'il a la sommation de la culture derrière lui. Or, c'est faux. Jamais, quelqu'un ne vit en lui-même l'infinité de la culture qu'il y a eu avant lui. Une vie ne pourrait pas suffire pour emmagasiner et réaliser tout ce qu'on dit et vécu les penseurs avant nous. Pardon? Par exemple, imaginez bien que qu'un gosse qui sniffe la colle à Rio de Janeiro, à 8 ans, n'est pas le bénéficiaire de la culture avant lui. Pas du tout. Il n'y a pas de passation de culture. Donc les mots ni ne passent la culture. Par exemple, vous allez me dire, je faisais rien, et j'ai fait dentaire, et j'ai devenu dentiste. Donc j'ai bien une culture. Avant, j'étais bon à rien, maintenant je suis dentiste, j'ai gagné de l'argent. Bon. Mais que des gens aient un talent particulier, à savoir construire des bateaux, réparer une roue de vélo, ou être dentiste, toujours il y a des choses comme ça. C'est pas très, bon, c'est pas très important si on peut être con et dentiste. On peut vivre mal et être dentiste. Ou vivre bien et réparer seulement des roues de voiture. Pas bon, non. Donc il y a toujours des gens qui ont un talent, et qui peuvent donner à autrui, enseigner un talent particulier, savoir bien aimer les ongles, je ne sais pas, moi, manucure, ça existe aussi. Bon. Donc, mais, non, ça existe, mais il n'y a pas d'élévation de la personne de par la fonction qu'elle a. Donc en cela, il n'y a pas réellement de passation de culture avec une sommation de la culture maintenant dans le mieux que... Parce qu'il y a plus de ponts maintenant peut-être qu'à l'époque de Parménide d'Élée. Ou autant. Disons autant. Voilà. Donc pour nous, pour revenir au bouddhisme, les cinq caractères de Myoho-Renge-Kyo ne sont pas les mots, ne sont pas le sens non plus, c'est l'état du Bouddha. Donc lorsque nous récitons Myoho-Renge-Kyo, quel que soit l'état dans lequel on est, avidité, bêtise, orgueil, ce que vous voulez, ou souffrance, de toute façon, quel que soit le socle sur lequel on part, l'état dans lequel on est, réciter Myoho-Renge-Kyo, c'est faire apparaître le corps du Bouddha physiquement. Donc c'est ça qui est prioritaire par rapport au fait de penser. Parce que la pensée est un effet. Avec la pensée, jamais vous ne trouverez une solution à votre existence. Par contre, faire apparaître le Bouddha en récitant Myoho-Renge-Kyo, ça, oui. Donc, le Daishonin va dire, si on récite Nam Myoho-Renge-Kyo avec une foi forte, sans aucune autre pensée, alors le corps de l'homme ordinaire est le corps du Bouddha. C'est ce qu'on nomme l'éveil de ce corps par la clarté obtenue seule et naturellement. Pourquoi? Parce que le corps du Bouddha aussi, c'est la sagesse du Bouddha, donc c'est la lumière, c'est la clarté. Autrement dit, si on arrive à pratiquer, réciter Myoho-Renge-Kyo, sans laisser ses pensées à soi trop prendre de place, à ce moment-là, c'est effectivement l'apparition du corps du Bouddha dans le monde réel. Le corps physique du Bouddha apparaît. Parce que la prononciation rend quelque chose visible. Un corps. Alors autant pour Aristote, ou pour les gens en général, où le sens est important, mais les mots ne donnent pas le sens pour chacun. Là, à l'inverse de ça, le Myoho-Renge-Kyo, quel que soit le sens qu'on lui donne, aboutit à la même réalité qui est Myoho-Renge-Kyo, donc qui est l'état d'éveil. C'est pour ça que, si on pratique avec l'esprit pollué, c'est mieux que de ne pas pratiquer, mais si on pratique avec l'esprit moins pollué, en arrêtant de faire confiance absolument à ce que l'on ressent, ou à ce que l'on pense, à ce moment-là, c'est encore mieux. Et la lumière de l'éveil naît en nous. Le corps de l'éveillé apparaît. C'est ça, donc, c'est la raison pour laquelle on le pratique. En outre, comme on l'a dit l'autre fois déjà, mais une petite couche en plus, ça gêne pas. Nietzsche dit que sentir, vouloir ou penser ne sont que des phénomènes terminaux dont les causes me sont inconnues. De sentir, vouloir et penser, c'est des choses qui apparaissent, c'est la fin d'un processus. Au moment où ça apparaît, j'en suis pas maître. Et c'est vrai, sentir, vouloir ou penser ne sont que des effets. Cela s'impose. Donc on ne peut pas du tout faire confiance à ça. Donc Heidegger dit, la parole parle elle-même en nous. On entend. Ce qu'on entend, c'est l'état. C'est traduit par des mots, mal traduit par des mots, mais toujours ce qu'on entend en nous, c'est un état. Mais les mots ne sont pas adaptés, et donc quand on en parlera, on interdira à l'autre de savoir ce que l'on est. Parce que les mots sont polysémiques, et un sens multiple derrière. Aussi, Heidegger dit, la parole est toujours déjà en avance sur nous, nous ne faisons jamais que parler à sa suite. Notre état, on l'entend en nous, en tant que mot, en tant que répétition. Par exemple, autrefois, on va à la cérémonie pour les morts, pas pour que vous mieux d'aimer beaucoup. Une nénette qui a pu participer à la réunion dit, en sortant, « Oh putain, c'est répétitif, ne me rendez pas tout le temps même, n'a jamais dû. » Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ses pensées à elle Si c'est pas une répétition au jour le jour d'un machin nauséabond entre l'avidité, la colère et l'angoisse, c'est pareil. Le flux de pensée qui la caractérise est répétitif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour est égal à tous les jours pour elle. Donc, dire que réciter la méringue est répétitif, la bonne affaire, toutes les pensées qu'on a à chaque instant sont la répétition de nous-mêmes depuis un temps infini. Eh oui. Seulement, entre la répétition de pensée dans l'avidité, la colère, la stupidité, l'orgueil, la détresse, et entre cette répétition et la répétition du corps du Bouddha, on peut choisir, si on pratique. D'accord ? Aussi donc, en 260 avant J.C., dans une école bouddhique, il est dit « La parole n'est pas conforme à la pensée, et elle fonctionne sans pensée. » La parole s'impose. Ce que l'on entend en soi est l'état. Quand vous dites j'ai des primes, j'ai des idées noires, qu'est-ce que je vais devenir dans le futur, et tout ça, les pensées à la fin qui vous émeuvent et vous meuvent, en disant c'est vrai, comme disait Empédocle, on ne croit que ce sur quoi on est jeté, c'est vrai, qu'est-ce que je vais devenir, puis du coup, j'ai un gros cul, donc toutes les questions qui peuvent se poser en général. C'est un état. Et la parole en vous, qui résonne, ne fait que traduire mal. Mais la parole parle elle-même. La parole fonctionne sans la pensée. C'est pas un acte, la parole. Elle monte. La pensée n'est pas un acte non plus. C'est rigolo, non? Aussi, Nagarjuna dit, à propos de la parole, toujours, le son qui va et qui vient manifeste le langage, mais il n'y a pas d'agent. Le son que vous entendez en vous, qui traduit en parole, je ressens ceci, je vois cela. Ce son qui va et qui vient, c'est le langage qu'on a appris en naissant, bon, ou après. Mais il n'y a pas d'agent, il n'y a pas d'acteur. Cela s'impose. Il n'y a pas un acteur décisionnaire, ça monte du corps, comme le disaient les Grecs. Ah oui, bien sûr. Shakyamuni disait, des événements se produisent de par le monde, mais il n'y a pas d'acteur. C'est comme ça. Des événements se produisent, vous pensez ceci, vous pensez cela, mais il n'y a pas d'acteur décisionnaire. Cela est un effet. C'est pas de la méchanceté de ma part, veuillez bien le croire.
C'est l'anarchie.
Hein? C'est pas l'acteur décisionnaire, oui. Bien sûr. La nécessité s'impose tout le temps pour les êtres. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'endroit. Aristote dit, après une délibération, si on prend une décision, c'est une cause. Mais c'est complètement con. Être incité à prendre une décision, c'est un effet. Donc, par métonymie, appeler ce qui a été fait une cause, on peut, mais ça sert à rien. Nichiren dit, si vous mettez le nom de Santal sur une merde, qui a la même odeur et la même matière, ça change rien de changer de nom. On peut appeler une merde Santal, bien sûr, mais ça pue encore. Donc, appeler cause un effet, c'est pareil, ça continue à puer, c'est toujours des effets. Bah oui, j'y peux rien. Donc, Nagarjuna dit, il faut considérer les sons, donc les paroles en soi, il faut considérer les sons comme un écho et les activités du corps comme un reflet. C'est exactement ça. Les sons en nous qu'on entend comme un écho.
L'écho de l'état.
L'écho de l'état, mais l'écho d'une infinité aussi. Hein. Donc les sons qu'on entend sont un écho et le corps n'est qu'un reflet. Comme disait Héraclite, nous sommes et nous ne sommes pas. C'est vrai aussi. Et aussi, Nagarjuna, on arrête quand vous voulez, vous me dites, hein, son, bon, j'ai pris trop de trucs encore. Ah oui, Nagarjuna dit, c'est drôle ça, il dit, les sots conçoivent comme corps ce qui n'est pas un corps, et comme pensée ce qui n'est pas une pensée. Double échec. On considère comme corps ce qui n'en est pas un, et comme pensée ce qui n'en est pas une. Double échec. Mais il dit que c'est les sots seulement. Parce que les individus s'appuient sur le corps pour comme quelque chose de durable, oui, et d'existant, de bien vrai. Et quand ils tombent malades gravement, ils peuvent dire, mais moi je voulais vivre. Mais considérer le corps comme quelque chose qui m'appartient alors que j'en suis tributaire et que c'est lui qui fait la pensée pour être con. Et pourtant, c'est ce que les êtres font. Il y a même des êtres qui se glorifient parce qu'ils courent vite ou ils pédalent vite. J'en ai même vu qu'ils se glorifiaient parce qu'ils tapaient dans une balle de cuir. C'est rare, vous me direz, mais j'en ai vu quand même. Bon, on va s'arrêter là, parce que vous en avez marre, je peux dire maintenant. Hein.
C'est intense, quand même.
1h30, oui, c'est intense, mais vous n'êtes pas là pour rire non plus. Vous avez un mois pour rigoler, et il y a 1h30, paf. On arrête là, c'est bon. Une dernière du grand patriarche. Ah non, Nichiren, tiens, pour. Hop là. Donc il dit. Non seulement le Bouddha, mais également tous les êtres tels que nous, jusqu'aux grillons, fourmis, moustiques et mouches, tous sont la forme et l'esprit sans commencement ni fin. Penser qu'il y a un début et une fin pour les êtres relève des vues erronées des voies extérieures au bouddhisme. Penser qu'il y a naissance et mort est complètement con, il dit. Donc même moustiques, mouches, le Bouddha, les êtres humains, tout cela ne peut ni commencer ni finir. Cela a toujours été. C'est à nous de nous éveiller à ça et de faire apparaître en nous une bienveillance telle que nous agissons par rapport à ça. Mais on y tirait une dire aussi de mémoire, les souffrances de la vie et la mort ne peuvent disparaître que si l'on réalise que rien ne peut ni naître ni disparaître, comme les Grecs le disaient. Mesdames, bonne aspirine.
Merci. Merci.